Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour à tous et bienvenue dans Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi aujourd'hui, il y a d'abord Paul Lassène, journaliste RMC. Salut Paul.
Salut Rémi, bonjour à tous.
Paul, comme tous les jours, qui va tout nous expliquer pour qu'ensuite on puisse tous débattre ensemble. Vous connaissez le principe, vous nous appelez au 3216. À côté de Paul, il y a Pierre Rondeau, économiste du sport. Salut,
salut
Pierre.
Salut Rémi, salut à toutes et à tous.
En face de Pierre, voilà, je situe bien pour ceux qui nous écoutent à la radio, il y a Juliette Briens, journaliste à l'Incorrect. Salut Juliette.
Bonjour tout le monde.
Et puis à côté de Juliette, il y a Robert Sebag, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière. Salut Robert.
Bonjour.
Le second tour des législatives pour Emmanuel Macron, le choix est fait, en tout cas il serait fait. Ce serait celui du Nini en cas de duel RN-LFI. Est-ce que c'est logique ou choquant? Vous nous appelez au 32-16. À 12h30, 4 Français sur 10 se disent angoissés par la situation politique. Et vous, est-ce que vous l'êtes? À 13h, pas d'impôt pour les moins de 30 ans, c'est une proposition du RN, bonne ou mauvaise idée? À 13h30, le meilleur du jour sur RMC avec notre zapping. À 14h, nous sommes à J-30 des JO, est-ce que ça vous excite? Et puis à 14h40, les immanquables, ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui dans l'actu.
RMC Estelle Midi.
C'est la consigne du jour. Emmanuel Macron aurait donc tranché sur la question des consignes de vote en cas de duel RN-LFI au second tour des élections législatives le 7 juillet prochain. Paul, ce sera le Nini. Ni l'un, ni l'autre.
Oui, selon les informations de nos confrères du Parisien, une réunion a donc eu lieu hier autour du chef de l'État pour parler de cette stratégie de campagne dans la dernière ligne droite de ces législatives anticipées. C'est Emmanuel Macron lui-même qui a lancé cette fameuse discussion du barrage républicain à ses proches. Ils étaient tous là, hein, Gabriel Attal, Stéphane Séjourné, François Bayrou, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Rachida Dati, Bruno Le Maire ou encore Yael Braun-Pivet. Et malgré toute la multiplicité de ses participants, il y a bel et bien un consensus. Alors le premier constat, c'est ce que dit le chef de l'État, il faut une ligne très forte et très claire au second tour pour éviter une fracture au sein de la majorité présidentielle. Deuxième constat, beaucoup plus concret celui-là, dire qu'il faut un refus des extrêmes, que ce soit le RN ou la France insoumise. Regardez ce qui peut être fait quand il y a un risque de victoire des extrêmes. En clair, c'est un appel au barrage en cas de duel ou un désistement en cas de triangulaire. Alors le barrage républicain, juste que là, était historiquement réservé au Rassemblement National, mais il s'était déjà un peu fissuré à l'occasion des législatives de 2002. Sauf que l'union, elle n'est pas totale du côté de la Macronie. Plusieurs anciens ministres ont co-signé une tribune publiée dans Le Monde hier, Clément Beaune, Stéphane Travert, Agnès Pannier-Runacher notamment, appelant tous les partis républicains à afficher clairement et dès maintenant qu'ils mettront en place un accord de désistement entre les deux tours contre le RN.
Pour le second tour des législatives, Emmanuel Macron prendrait donc le Nini, le ni RN, ni LFI. Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est choquant? Vous nous appelez au 32-16. Pierre Rondeau, je crois savoir que tu es un peu remonté.
Remonté, oui et non. Moi, je me souviens simplement qu'en 2022, le président Macron a appelé à ce qu'on fasse le barrage face au Rassemblement National et face à Marine Le Pen. Il avait ensuite fait un tweet disant que ce vote m'oblige et que, ayant été réélu grâce aux nombreuses voix de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, ce vote l'obligeait. Et aujourd'hui, il en vient à appeler au barrage. Alors, d'abord, précisons-le, parce que c'est vrai que beaucoup de gens pourraient faire l'amalgame et considérer que ce soit un vote contre le Front Populaire. Là, en l'occurrence, c'est vraiment RN-LFI, me semble-t-il. D'ailleurs, j'écoutais ce matin Édouard Philippe. Si, au second tour, il y a un candidat RN face à un socialiste, face à un écologiste, face à un communiste, je ne pense pas que la Macronie fasse barrage et n'aille pas soutenir le candidat opposé au RN.
Mais très clairement, Emmanuel Macron renvoie dos à dos RN et LFI.
Effectivement, le front ici républicain, le barrage républicain, c'est plus uniquement le RN, c'est le RN et LFI. Et ça me dérange parce que c'est en partie grâce aux voix pour Jean-Luc Mélenchon et aux voix pour LFI en 2022 que le président Macron a été réélu. Et qu'ensuite, il aurait pu simplement faire une croix dessus et simplement considérer qu'il a été élu, point final, par les Français et pas par les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il a ensuite rédigé un tweet disant « ce vote m'oblige ».
Mais il l'a dit même oralement.
Il a reconnu qu'effectivement, sa réélection était en partie due à ses électeurs. Mmh. Et aujourd'hui, il considère que ses électeurs ne font pas partie de l'arc républicain. Il considère que ses électeurs sont à même pied d'égalité, sont à même sur c'est le même acabit que celles et ceux du Rassemblement National. Et c'est ici que ça me choque. C'est de considérer qu'il y a une vingtaine d'années, on était vraiment sur une diabolisation du FN. On considérait, et encore aujourd'hui d'ailleurs, que c'était un parti ouvertement xénophobe, ouvertement protectionniste, refermé sur lui-même, qui étale des thèses et des propos condamnables par la justice. Et LFI, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais été condamné pour incitation à la haine. Jusqu'à preuve du contraire, LFI n'a jamais été condamné pour antisémitisme, n'a jamais été condamné pour racisme. Et on met sur un même pied d'égalité le RN avec LFI. Et c'est là où ça me choque.
Juliette Briens, c'est choquant.
Moi, ça me fait beaucoup rire, en fait, parce que ça me fait rire de voir la gauche prise à son propre jeu. Parce que nous, en fait, si vous voulez, il y a toute une partie de la classe politique à droite qui est habituée depuis des années, depuis 30 ans, à être taxée d'extrême droite, d'anti-républicain, de facho, de raciste, etc. Et donc là, en fait, la gauche, Macron joue au même jeu avec la gauche et ça me fait énormément rire parce que eux sont pas habitués. Et donc, moi, je trouve ça me choque pas du tout. C'est sa ligne depuis le début. Il est le rempart aux extrêmes puisque maintenant, en fait, il y a quand même un bloc de gauche. Il y a le RN, mais il y a aussi le bloc de gauche qui, en s'alliant, arrive à faire un bon pourcentage. Donc depuis le début, il est dans ce choc des extrêmes et lui serait le seul rempart contre les extrêmes. Donc forcément, il ne va pas à l'avance exprimer ses intentions d'appel au vote pour l'un ou pour l'autre au second tour. Ça me paraît totalement logique. En tout cas, moi, ce que je pense,
entre ne pas appeler et ouvertement le dire. Tu pourrais, effectivement, je te rejoins, il pourrait ne pas appeler tout de suite. Édouard Philippe, je le reprends, mais je le recite.
Nini.
Lui, quand on lui pose la même question, chose. C'est je ne vous réponds pas avant le second tour. Mmh. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est. Et on pourrait parfaitement avoir un discours que je pourrais accepter. Moi, Pierre Rondeau, je pourrais l'accepter. que ce soit, je ne sais pas. Là, c'est ouvertement dire
je vous explique. Il y a toute une partie des Français qui pensent, et je pense beaucoup des Français qui pensent exactement l'inverse de vous. C'est-à-dire que mettre dos à dos le RN et LFI, pour eux, c'est grave, parce que LFI, c'est 10 fois pire que le RN.
Jamais été condamné.
Et quand on sera en second tour et qu'il y aura du LFI contre RN, on verra que j'ai raison. La seule chose que ça prouve, excuse-moi, c'est que Macron est dans l'indifférence totale par rapport au sort de son pays. Qu'on pense comme toi ou comme moi, c'est la même chose. Il s'en fiche éperdument.
Robert Sebag.
Une des raisons pour lesquelles le président Macron a dissous l'Assemblée, c'était qu'il était persuadé qu'il allait casser complètement la gauche et que personne n'y aurait pas d'accord. Et puis là, tout d'un coup, il y a eu un accord. Bon, il est bon, il n'est pas bon. Il existe cet accord avec le nouveau front. Et donc là, il cherche encore une manière, si vous voulez, de les casser. De casser, de séparer LFI des sociodémocrates, des écologistes. Vous savez, moi, ça a été fait dans l'histoire, hein, le Nini, hein, Sarkozy, si ma mémoire est bonne. Mais à l'époque, c'était le Parti Socialiste, hein, il n'y avait pas d'extrémisme particulier, et ça n'a pas payé. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est, en général, les consignes de vote, c'est un véritable mépris pour les électeurs.
C'est vrai.
Je crois qu'ils ne le suivent pas. Ils ne suivent pas les consignes de vote. C'est vraiment leur faire la critique de dire « Vous n'êtes pas capable de juger, moi je vais vous aider. Je vais vous aider à prendre une décision. » Et ça me paraît extrêmement grave. C'est comme les débats, si vous voulez. Les débats ne font pas vraiment bouger quand on regarde un petit peu. Rappelez-vous le débat entre Bardella et Gabriel Attal avant les européennes. On a dit, mais Gabriel Attal l'a écrasé complètement. Ben, ça n'a pas bougé d'un iota, si vous voulez, sur les sondages quand les européennes. Donc, ce Nini, si vous voulez, d'abord, on s'aperçoit que même au sein de la Macronie, en fonction, alors vous avez parlé des bonnes de panier runaché, mais il y a Aurore Berger, elle a fait quasiment, elle a pris le contre-coup du truc républicain en disant il fallait d'abord, si vous voulez, contre LFI, si on voulait vraiment éviter le Rassemblement National. Donc, si vous voulez, c'est la pagaille, c'est la débandade, c'est la peur, si vous voulez, de cette défaite annoncée. Et donc, voilà, on lance ce genre de choses. Mais je répète, mépris. Laissez les électeurs, ils sont assez matures, assez renseignés pour prendre leurs décisions eux-mêmes.
Second tour des législatives pour Emmanuel Macron, en cas de duel RN-LFI, eh bien, ce sera ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'est logique ou c'est choquant? Vous nous appelez au 3216, comme le fait Fatah qui nous rejoint. Bonjour Fatah.
Bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est à Cuisy, c'est ça, dans Haute-Savoie?
Oui, tout à fait.
Bon, le Nini, prôné par Emmanuel Macron, c'est choquant ou c'est logique?
J'ai envie de dire un peu les deux. C'est-à-dire que ça me surprend pas de la part du président de la République, puisque finalement, il est dans sa lignée avec la dissolution. Mais c'est aussi choquant dans le sens où, enfin, moi, je prends mon cas personnel. J'ai cru bêtement finalement, mais j'ai cru à l'engagement politique d'Emmanuel Macron. Donc j'avais voté Macron en 2017. En premier tour, j'ai voté Mélenchon. Deuxième tour, j'ai justement voté Macron pour faire barrage au Rassemblement National. Idem en 2022, où j'ai voté Mélenchon et j'ai à nouveau voté Macron au deuxième tour pour faire barrage au Rassemblement National. Je me souviens d'un tweet qui avait été fait, comme l'a rappelé, je crois que c'est Pierre Rondeau là, qui l'a rappelé juste avant. Oui, en effet, c'est cette solution de facilité, un peu de lâcheté, en disant OK, on drague un peu les électeurs de gauche en disant vous avez des valeurs et je les mets en avant. Et je vous remercie pour ça. Et vous faites barrage au Rassemblement National, mais par contre, il n'y a pas le retour dans l'autre sens. Alors, ok, le but c'est pas forcément de donner des instructions de vote, mais c'est simplement de prendre position à un moment et d'être cohérent. Finalement, de dire nini, c'est-à-dire qu'on renvoie sur un pied d'égalité ces deux parties-là.
Ah bah très clairement.
Voilà, et du coup ne pas prendre une position républicaine.
On en a parlé hier, je ne sais pas si vous nous avez écouté, mais enfin Emmanuel Macron a aussi déclaré dans la presse régionale que si jamais le programme du RN était appliqué, ou si le programme de Nouveau Front Populaire était appliqué, ça nous mènerait à la guerre civile. Donc on renvoie là dos à dos, oui, c'est clair.
Oui, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est jouer sur les peurs, mais finalement le but c'est de la tactique, quoi. C'est de la stratégie, c'est de la tactique. Et finalement c'est tout ce que les Français n'aiment pas, c'est ce qu'ils reprochent aux politiques, c'est de ne pas prendre position et de continuer à jouer sur les peurs pour des buts individuels ou en tout cas des buts électoraux et des buts politiques. C'est justement, je pense, que ce qu'on reproche. Alors après, prendre position, ça veut pas forcément dire j'appelle tout le monde à faire barrage, mais c'est simplement que enfin voilà, moi ça me gêne. En tout cas, il y a un manque de cohérence. Et c'est on profite des électeurs de gauche ou d'autres électeurs pour faire barrage au Rassemblement National, mais par contre, on voit pas.
Compris. L'ascenseur.
On voit pas dans l'autre sens. On voit pas l'ascenseur. Tout à fait.
Merci beaucoup Fatah d'avoir été avec nous. Belle journée du côté de Cuisy en Haute-Savoie. Arnaud Benedetti nous rejoint. Bonjour Arnaud Benedetti.
Bonjour à vous.
Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire aux éditions Michel Lafon. Il est paru quand votre livre?
Paru au mois d'avril, fin avril.
Ouais, vous le sentiez quand même, hein, venir un petit peu.
Je n'irai pas jusque-là quand même. Je vous rappelle qu'il y a un point d'interrogation quand même.
Ouais. Voilà. En tout cas, Arnaud Benedetti, aujourd'hui on en est là où on en est. Est-ce que cette tactique, en tout cas cette préconisation faite par Emmanuel Macron pour le second tour des élections législatives, dans une circonscription où il y aurait un duel RN et LFI au second tour, donc ce serait ni l'un ni l'autre. Est-ce que ça peut être payant, ça? Est-ce que ça peut inciter au premier tour les électeurs à se positionner différemment, ou en tout cas dans le sens de ce que souhaiterait le président de la République?
Non, mais vous avez raison de rappeler que, je veux dire, c'est une stratégie pour l'instant de premier tour, parce que s'il veut rester sur cette ligne, manifestement, c'est qu'il considère qu'il a besoin de l'électorat qui est au centre droit de sa majorité et vraisemblablement peu favorable, si vous voulez, à cette consigne de vote, notamment en faveur de candidats issus de LFI. Donc, aujourd'hui, quel est l'objectif d'Emmanuel Macron? C'est de pouvoir qualifier le maximum de ses candidats au second tour de cette élection législative, pour évidemment éviter que sa majorité s'effrite encore plus qu'elle ne risque de s'effriter. Donc là, on est véritablement, si vous voulez, dans une stratégie de premier tour. Ensuite, on verra bien, le second tour va être, l'entre-deux tours en tout cas, va être extrêmement intéressant à suivre et va donner certainement lieu à de multiples supputations et conjectures. Mais la réalité, c'est que il y aura peut-être, en fonction des circonscriptions, on va regarder les circonscriptions de très près et très rapidement, parce que je rappelle que le dépôt des candidatures pour le second tour, c'est le mardi, en principe à 18h. Mais dans certaines circonscriptions, vous avez un candidat socialiste, ou vous avez un candidat, par exemple, vert, ou vous avez un candidat communiste. Peut-être qu'à ce moment-là, en effet, la stratégie qui serait celle de Renaissance, c'est la stratégie du président de la République, c'est d'appeler, en effet, à éventuellement voter pour ces candidats lorsqu'ils sont opposés aux candidats du Rassemblement National. Manifestement, la ligne rouge aujourd'hui, du côté, en tout cas, du président de la République, c'est LFI. LFI.
S'il y a un second tour avec candidats RN et LFI, il pourrait très bien ne pas y avoir d'appel de
consigne. Ah, il y aura certainement
de consigne.
À mon sens, il y aura très peu de chances qu'il y ait de consignes, parce que là, pour le coup, si vous voulez, d'abord, je suis pas sûr que ces consignes seraient forcément suivies.
Mais c'est ce que j'allais vous poser comme question, hein, Benedetti. Les consignes de vote, est-ce que ça marche encore?
Non, beaucoup moins. Voilà. Vous savez, on a eu, rappelez-vous les élections législatives il y a 2 ans. C'est pas si loin que ça, hein. Il y a 2 ans, le Rassemblement National a envoyé 89 députés. Les 89 députés, ils les ont envoyés dans des configurations de duels. Puisqu'il y a eu très peu de triangulaires en 2022. Je crois qu'il y a eu 2 triangulaires de mémoire. Et dans des configurations de duels, dont notamment près de la moitié de ces duels contre des candidats de gauche. Et les configurations de duels sont en général des configurations qui sont propices à la constitution d'un front républicain. Ben, ça n'a pas marché. Les candidats du Rassemblement National ont été élus. Donc, si vous voulez, l'idée même du front républicain est quand même particulièrement érodée aujourd'hui. Alors, elle peut marcher peut-être dans un certain nombre de circonscriptions, parce qu'il y a parfois des situations locales qui font que ça peut fonctionner. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde d'ailleurs les estimations qui sont faites, notamment sur les reports de voix, si les candidats du Rassemblement National se retrouvent dans des configurations de duel par rapport aux candidats du Front Populaire, ben, manifestement, les candidats du Front Populaire vont avoir une déperdition en matière de report de voix.
Il est usé. Merci. Oui.
Je veux dire que le Front Républicain, il est usé. Il a été trop utilisé, puis aujourd'hui, les gens n'y croient plus. Écoutez, à chaque fois, on l'a fait. Ça ne marche plus. Ce qui va être très, très important, à mon avis, parce qu'on a vu que le taux d'abstention sera beaucoup moins, donc il y aura une participation beaucoup plus importante, c'est le nombre de triangulaires.
Il risque d'en avoir pas mal.
On aurait eu 2 ou 3.
Et peut-être même des quadrangulaires.
Il peut y en avoir plus de 100. De 100 à 150. Et ça peut complètement modifier le résultat de ces élections.
Merci Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, aux éditions Michel Lafon. Jonathan nous rejoint au 32-16. Bonjour Jonathan.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est en Loire-Atlantique.
Ouais.
De quel doigt à Nantes même, Jonathan?
À Nantes, sous le soleil, 30 degrés, il fait beau.
Très bien, ça fait du bien quand même un petit peu.
Hein. On avait perdu l'habitude. Hein.
Bon, Jonathan, le second tour des élections législatives en cas de duel RN, LFI, le chef de l'État serait plutôt enclin à donner la consigne de vote, ni l'un ni l'autre, donc de ne pas de voter blanc, de s'abstenir ou de voter blanc. Est-ce que vous pensez que c'est logique ou c'est choquant?
Alors, pour lui, c'est logique, évidemment. Oui. C'est logique, ça fait des semaines qu'il enchaîne les deux extrêmes. C'est pas pour nous dire aujourd'hui d'en choisir un. Donc, dans son discours à lui, évidemment qu'il ira jusqu'au bout de sa pensée. Pour autant, est-ce que nous, on l'écoutera? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Moi, je l'écouterai pas, sincèrement, sur ce point-là. Je voterai Front Populaire au deuxième tour. Le cas d'un duel entre le RN et le Front Populaire. À contre-cœur, parce que chez nous, le candidat, c'est un candidat LFI. Mais voilà, ce sera pas dans l'espoir.
Mais est-ce que vous comprenez aujourd'hui que Emmanuel Macron range sur la même étagère, j'allais dire, c'est une image qui vient comme ça, mais en tout cas, met au même niveau RN et LFI?
Je le comprends. C'est un politicien, il se met à hauteur de l'idéologie du moment. Aujourd'hui, dire que le RN est un parti extrémiste et que c'est le seul, c'est plus trop dans l'air du temps. On le regrette, on le regrette pas. Maintenant, voilà, 40% d'électeurs d'extrême droite au premier tour, si tu les mets tous de côté comme ça, en les stigmatisant et en leur donnant tort, je suis pas sûr que ce soit la solution aujourd'hui.
C'est pas de la stigmatisation, c'est un rappel factuel. Et dire que le RN est d'extrême droite, c'est pas critiquer ses électeurs, c'est le Conseil d'État qui l'a dit.
Non, mais ça veut rien dire. Le Conseil d'État, il peut dire ce qu'il veut, mais vous avez une définition précise de ce que c'est l'extrême droite, Pierre. Mais c'est pas factuel parce que le Conseil d'État l'a dit, pas pour nous, pas pour 40% d'électeurs.
Encore une fois, je le répète.
Mais pourquoi? Mais est-ce que vous avez d'autres arguments à part c'est le Conseil d'État qui l'a dit? Expliquez-moi en quoi. En quoi le RN est d'extrême droite? Dites-le-moi, avec des arguments concrets.
Là, on est sur la sémantique.
C'est de la sémantique, mais c'est important pour les gens. Toute la journée, on leur dit vous votez à l'extrême droite, toute la journée. Il faut faire part à vos extrêmes, vous êtes des extrêmes, vous êtes des extrêmes. C'est important cette sémantique. Les gens en ont marre.
Tu sais quoi? Tu leur dis qu'ils sont d'extrême droite? Ils sont contre
Fichu. Oui, bien sûr, parce qu'on a appris. Parce que les gens ont appris.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de Français qui n'en sont plus là. Je pense sincèrement.
Mais sur les plateaux,
et on en est là. et on le déplore ou pas, c'est comme ça.
Oui,
c'est
bah
pas...
alors là, depuis le débat tout à l'heure, c'est on met dos à dos les extrêmes. Est-ce que vous acceptez qu'on mette le RN à dos avec LFI?
Moi, je veux pas le
dire. Juliette, est-ce que tu as terminé ou pas? On peut parler?
C'est toujours le même débat.
On peut parler, Juliette?
Oui, on peut parler, bien sûr.
Sûr?
Oui.
Bon. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'un certain nombre d'électeurs aujourd'hui n'en sont plus là. Oui. Avant, on avait honte de dire qu'on votait FN, qu'on votait RN, parce que on disait non, mais moi je suis pas d'extrême droite. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui ont, parce qu'on n'en serait pas là, qui votent RN et qui l'assument totalement. Et que tu peux leur dire, vous êtes d'extrême droite, ils sont contre-fiches, ils votent RN. Même chose pour LFI. Il y a des gens qui votent LFI aujourd'hui, qui votent à gauche. Tu peux leur dire, vous êtes d'extrême gauche. Oui, mais quand même, LFI, attention, les positions sur Israël, etc. Ils sont contre-fiches. Je pense qu'on n'en est plus là. Donc, on peut débattre pendant des heures sur la sémantique. C'est intéressant, c'est important, mais je pense que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent sont, en tout cas, un certain nombre d'entre eux, sont contre-fiches.
Vous avez tellement raison.
Pierre,
vous avez tellement
raison. J'ai coupé la parole. J'ai coupé la parole à Juliette et je te coupe la parole à toi aussi, okay. Parce que pourquoi c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est parce qu'il y a François.
Ah, très bien.
Mais attends, au 32-16.
Il a la priorité.
Il a la priorité,
François.
Et tu as bien compris le principe, Robert, exactement. François est avec nous au 32-16. Bonjour, François.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi, et vous-même.
Moi qui vous remercie, évidemment.
Bon, on est dans le Tarn-et-Garonne.
Absolument.
Montauban. Bah, formidable.
Soleil magnifique.
Formidable. François, cette consigne du Nini donnée par le chef de l'État, c'est logique, c'est choquant?
Alors, c'est logique et c'est un minima choquant en effet. Pour autant, je vais suivre cette consigne. Alors, je ne peux pas suivre à la lettre, évidemment, mais moi, elle me convient. Je vais vous expliquer pourquoi. Autant en 2022, cette consigne, ben non, je l'aurais pas écoutée. Par contre, il s'est passé beaucoup de choses depuis 2022, principalement à l'Assemblée. Il suffit effectivement de regarder. Depuis 2 ans, hein, il y a eu des ballons, ou plutôt des têtes qui ont décollé sur des ballons et on sait pourquoi.
LFI, ça venait de chez LFI, ouais.
Voilà, il y a eu Ercilia Soudé, on a vu ce qu'elle a effectivement eu l'occasion de faire. On a vu Louis Boyard également. Mmh. On a vu une bordélisation, on a vu une hystérisation absolue. On a vu aussi quelque chose qui est passé à travers les radars l'année dernière en 2023, à savoir un appel en fait à une révolution subversive de la part de Mélenchon. On sait ce que ça veut dire une révolution subversive. Pour rappel, c'est de la violence. Pour rappel, ça peut déboucher sur une guerre civile. Si vous cherchez, vous trouverez ceci aisément sur les réseaux, puisque ça date de juillet 2023. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ce que je veux dire, c'est que jamais je mettrai un bulletin RN dans une urne. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ce que je dis juste, c'est que LFI, qui est le leader finalement du nouveau Front Populaire, a très largement rattrapé, puis, si je peux me permettre, largement dépassé ce qu'on pouvait imaginer lorsqu'ils sont entrés à l'Assemblée en 2022. Mmh. En fait, ils ont dégoûté absolument tout le monde. Ils provoquent chez moi un dégoût absolu, vraiment absolu. Et ces gens, effectivement, n'ont fait qu'une chose depuis 2022 avec leurs actions, c'est faire évoluer et monter simplement le RN. C'est ça la réalité. De toute façon, on ne vote pas ni pour un salaud, ni pour un autre salaud. Et c'est comme ça.
Ça, c'est votre position, François. Merci, François, d'avoir été avec nous. François qui nous a appelé depuis le Tarn-et-Garonne. On vous a posé la question. Paul, second tour des législatives pour Emmanuel Macron, ce sera ni RN, ni LFI, logique ou choquant?
Eh bien, c'est choquant pour 61% d'entre vous qui avez voté sur nos réseaux sociaux.
Allez, dans un instant, on parle toujours de ces législatives dans Estelle Midi, sur RMC, RMC Story. Tiens, François nous disait qu'il était, on sentait une certaine angoisse, en tout cas chez lui. Eh bien, justement, d'après une étude de la Fondation Jean Jaurès, 4 Français sur 10 se disent angoissés par la situation politique. Et vous, on pose la question, vous nous appelez au 32-16. Et puis, Paul, on joue.
Oui, cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister au 8e de finale de l'équipe de France. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le vol, aller-retour et l'hôtel jusqu'à Düsseldorf. La rencontre, évidemment, avec les équipes d'RMC sur place avant le match. Et bien sûr, vos 2 places pour le 8e de finale de la France, c'est lundi, le 1er juillet à 18h. Alors, dès que vous entendez cette alerte à l'antenne... Vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 732-16. Euro au 732-16. Vos places pour le 8e de finale de l'équipe de France. C'est lundi, on vous le rappelle. Eh bien, c'est uniquement sur RMC.
Allez, la suite d'Estelle Midi dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
La suite d'Estelle Midi, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT, l'angoisse du jour. Angoisse des Français à l'égard de la situation politique actuelle. Paul, d'après une étude de la Fondation Jean Jaurès, 34% des personnes interrogées quand même se disent inquiètes, angoissées.
Oui Rémi, cette séquence politique impacte considérablement le moral des Français, avec en tête des émotions exprimées par les interrogés, fatigue, colère, tristesse et peur. Donc, près de la moitié d'entre eux, 47%, se disent moins sereins depuis la dissolution et 39% se disent même davantage angoissés. Dans le même temps, près d'un tiers des interrogés se disent davantage perdus également politiquement depuis la dissolution. Et c'est encore pire du côté des électeurs d'Emmanuel Macron qui semblent le plus impactés. 40% disent davantage perdus. Ils ne sont pas plus épargnés par le climat anxiogène puisque 55% d'entre eux se disent beaucoup plus angoissés depuis les résultats du 9 juin. Autre chiffre alarmant, depuis 3 semaines, 34% des Français se disent moins heureux. Cela représente quand même près de 18 millions de Français qui auraient perdu un peu de joie de vivre ces 3 dernières semaines. Et c'est dans cette atmosphère de clivage qu'a lieu cette campagne, un clivage principalement générationnel, on l'apprend dans cette étude. En effet, les perceptions divergent selon l'âge, avec des jeunes de moins de 35 ans bien plus positifs, qui ressentent encore de l'espoir et de la joie, et même une pointe de fierté, nous dit-on, alors que colère et tristesse dominent très largement auprès des aînés.
4 Français sur 10 se disent angoissés par la situation politique actuelle. Et vous, vous nous appelez au 32-16. Vous verrez, parfois ça fait du bien d'en parler. Je me tourne vers un médecin. Docteur Sévac, bonjour. Les Français, une bonne partie de Français en tout cas, se disent angoissés, tristes, fatigués. Docteur, est-ce que vous comprenez?
Alors d'abord, je vais oublier vos chiffres et je vais voir ce que moi je vis à l'hôpital quand je vois des patients. Ça va exactement dans le même sens. Mais c'est la somme de plusieurs choses. Il y a eu d'abord le climat, et vous savez que ça joue un rôle extrêmement important. Il y a eu beaucoup de pluie, il n'y a pas eu réellement de printemps.
Attention, donc déjà, parce que là, l'étude de la Fondation Jaurès, c'est sur le climat politique, hein.
J'ai bien compris, mais je veux dire qu'il y a la somme d'un certain nombre de choses. Déjà, il y a eu le climat. Ensuite, les périodes d'inflation, les gens, il y a eu des doutes. On sent bien depuis quelque temps que ça ne va pas. Alors là, bien sûr, si vous voulez, l'explosion avec cette dissolution et les risques inhérents à cette dissolution sur le vote, les gens ne voient plus d'avenir immédiat. Je pense que les Jeux Olympiques jouent un rôle extrêmement important.
On en parlera à 14h.
Oui, mais quelque part, les gens étaient fiers. Là, on se dit comment tout ça va se passer. Donc oui, je pense qu'il y a une réelle angoisse, si vous voulez. Moi, je la ressens auprès de mes patients, mais moi, j'ai cette angoisse également.
Tu es angoissé?
Oui, je suis angoissé parce que, regardez l'année dernière, les émeutes pour Naël. Ça a été quand même quelque chose d'assez incroyable. Et je veux dire, là-dessus, c'est encore beaucoup plus important, c'est le climat politique, hein, quel qu'il soit. Je crois que la démocratie aujourd'hui, quel que soit le résultat, les gens, voilà, ils sont pas contents, même si c'est un vote démocratique, quel que soit le résultat. Et donc les gens ont très très peur. Alors je dis, moi, déjà d'utiliser de guerre civile, ça rajoute à l'angoisse, si vous voulez. C'est une erreur.
Ce qu'a dit Emmanuel Macron.
C'est une erreur psychologique manifeste, parce que guerre civile, il faut des armes, c'est deux camps. Bon, c'est pas ça. Mais qu'il y ait une sorte d'insurrection ou désinsurrection, j'en ai un petit peu peur. Surtout à un moment où les gens attendaient les vacances, attendaient l'été. Et puis là, tout d'un coup, tout en ballot. Donc la somme de tout ça fait qu'il y a une réelle angoisse auprès de la population française.
Pierre Rondeau, depuis quelques jours, il refait beau, notamment sur Paris. Lorsque tu vas boire un petit verre le soir avec ta camarade, avec tes amis bobos, le long du canal Saint-Martin, est-ce que vous êtes angoissé? Vous partagez vos angoisses?
Moi, je le suis, en tout cas. Il y a un biais dans l'analyse, si tu me poses la question directement, parce que Paris... Il y a Paris et la Provence. Quand on regarde,
On l'a vu au niveau des résultats.
On voit les résultats.
Je parle des résultats des européennes. Toute la France pour schématiser, toute la France était RN et il y avait quasiment que Paris qui était.
Il me semble que dans Paris, il y a deux bureaux de vote sur tous les bureaux de vote de la capitale qui ont voté à majorité Jordan Bardella pour les européennes.
Alors, est-ce que vous êtes d'autant plus angoissé?
Alors, ce que je dis, c'est que. Un, je n'ai pas le sentiment vis-à-vis de mes proches, vis-à-vis de mon entourage, d'avoir une angoisse persistante ou prégnante actuellement parce qu'on se dit qu'au final, nous à Paris, on débat sur est-ce qu'on va voter pour Mathilde Panot ou Sandrine Rousseau. Donc, tu vois, c'est ce niveau de débat qu'on a entre nous. Chikirou, Aymeric Caron ou d'autres. Maintenant, moi, me concernant personnellement, moi, j'ai encore en tête, et je m'en souviens très bien, ça fait partie de mon éducation et de mon histoire politique. En 2002, moi, j'étais très jeune à l'époque, mais je m'en souviens, Jean-Marie Le Pen au second tour. J'ai été élevé, mon éducation politique, dans cette forme de diabolisation du FN, à l'époque du FN. Moi, je me souviens même enfant en 2002 avoir presque pleuré de Jean-Marie Le Pen, de la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Et ça me rappelle des souvenirs, en fait. Et penser que le 8 juillet prochain, la France pourrait effectivement passer dans le camp de l'extrême droite et avoir une majorité relative ou absolue RN, oui, ça m'angoisse. Ça m'angoisse, alors c'est mon éducation, encore une fois, c'est pas du mépris que j'ai porté aux électeurs et je respecterai le vote quoi qu'il arrive, et c'est la démocratie. Et de façon très cynique, je pourrais aussi ouvrir une parenthèse et dire, allons-y, hein, si les Français le veulent, assumons la chose.
Ça fait tellement longtemps qu'on en parle, on les a pas essayés, mais on verra.
Les Américains l'ont fait, les Hongrois l'ont fait, les Brésiliens l'ont fait, les Anglais l'ont fait, les Italiens le font actuellement, bah oui, si vous le voulez, on le fait, et on verra les résultats. Jusque moi, me concernant très personnellement, j'éprouve une forme d'inquiétude qui rappelle des souvenirs d'enfance où en 2002, effectivement, je voyais à l'époque la posture, la présence de Jean-Marie Le Pen comme le diable. Mmh. Et ça me rappelle des souvenirs.
Juliette, hormis quand je t'interromps assez violemment, verbalement, parce que tu parles sur Pierre Rondeau, bref, est-ce que tu es angoissée?
Moi, je trouve que c'est normal d'être angoissée. L'incertitude appelle l'angoisse. Moi-même, évidemment, face à cette incertitude, évidemment, Macron joue sur les peurs. Hein. Il dissout, puis après il dit ça va être la guerre civile. C'est quand même incroyable. Moi, je dis à tout le monde, qu'on soit à gauche, à droite, je trouve que ce qui était angoissant, c'était de voir notre pays s'embourber dans cette sorte de marasme, d'immobilisme, et de ne pas aller dans la bonne direction, de voir les gens se désintéresser complètement de la politique, de ne plus faire confiance en qui que ce soit pour les diriger, etc. Là, quoi qu'il se passe, je trouve qu'il y a au moins une reprise en main du peuple, en fait, par une reprise en main de son futur par le peuple, qu'il vote à gauche, qu'il vote à droite, nouveau Front Populaire. Je pense qu'effectivement tout vote doit être respecté et au moins il se passe quelque chose. Et alors c'est vrai que ça fait peur, c'est vrai que ça peut être violent.
C'est Emmanuel Macron qui a redonné la parole au peuple là.
Oui, c'est vrai, mais c'est extrêmement bizarre de derrière ensuite venir jouer sur les peurs en disant ça va être la guerre civile, tout va exploser. Effectivement, il y a des angoisses.
Grande contradiction.
Voilà, c'est sa grande contradiction. Donc moi, je pense personnellement, parce qu'on a toujours cru que Macron, on lui prête toujours en fait un talent surnaturel, c'est-à-dire que tout est prévu, c'est le Mozart du plan. Moi, je pense que là, il est complètement paumé. Je pense que là, en fait, il a perdu. Il est totalement isolé. Plus personne dans son propre camp ne peut le supporter. Ils ne le mettent même pas sur leur bulletin de campagne. C'est un repoussoir, et là je pense que sincèrement il est au pied du mur et ne sait plus quoi faire.
4 Français sur 10 se disent angoissés par la situation politique, et vous nous appelez au 32-16. Philippe nous rejoint, bonjour Philippe.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Philippe, bonjour. On est dans les Yvelines à Bonnelles, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Vous faites quoi dans la vie, Philippe?
Eh bien, j'ai été prof pendant 45 ans. Maintenant, j'ai fait valoir mes droits à la retraite, donc je suis retraité. Voilà.
Très bien, est-ce que vous êtes angoissé, Philippe?
Eh bien moi, absolument pas. Voilà. Moi, je suis ravi parce que la République française fonctionne. Les institutions vont fonctionner. Il y a des partis qui se présentent. Alors après, il y a des détestations. Il y a des haines vivaces entre les gens. Et là, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Les gens votent. Il y aura des députés. Il y aura une majorité absolue ou pas, je pense pas. Et puis le président de la République, il sera toujours là. Il choisira un premier ministre. Et s'il y a des émeutes dans la rue parce que ça convient pas à certains, les résultats toujours les mêmes, l'extrême gauche qui a pignon sur rue en France et qui a en plus souvent beaucoup de complaisance dans les médias, ben c'est pas grave, la police républicaine fera son travail, remettra de l'ordre et le pays va continuer à avancer, à fonctionner. Je vois pas pourquoi on a peur des gens comme ça. Ça me rappelle 2005, quand on avait voté pour l'Europe, bah, les Français avaient mal voté. Donc après, en 2008, on nous a dit, c'est quand même, on ne va pas tenir compte de votre vote. Là, c'est pareil. Le président dissout, puis après, il dit qu'il a peur. Il a peur de ce qui va arriver, puis les gens ont peur. Non, ça s'appelle la démocratie. Voilà, les partis sont légaux. Rien n'est interdit. Il n'y a pas de... Voilà, moi j'entends des gens qui déraisonnent complètement, qui pensent qu'on est carrément dans l'Allemagne nazie en 1936. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Je trouve ça déraisonnable d'avoir peur, et en plus, la peur est mauvaise conseillère.
Merci Philippe d'avoir été avec nous. Plein de bon sens, Philippe, qui nous appelait depuis les Yvelines, depuis Bonnelles. Et après Philippe, c'est Sabri qui nous rejoint. Bonjour Sabri.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous dans Estelle Midi. On est dans l'Hérault à 7.
Ah, quelle belle ville.
Quelle belle ville, dit Robert Sebag.
Ah oui, j'adore.
Bon, Sabri, est-ce que à 7, même si il fait quoi, quel temps là? Tiens, vous avez du soleil ou pas?
Très mitigé.
Une fois que c'est comme ça et que nous on a du soleil, vous n'allez pas vous plaindre, Sabri.
On vous en prête un petit peu. Ouais.
Bon, voilà, mais vous allez récupérer très vite, j'en suis sûr. Sabri, est-ce que vous êtes un peu comme le ciel en ce moment au-dessus de 7, un peu angoissé, un peu le ciel
est mort. Alors angoissé, c'était peu de le dire. Non, en fait, j'ai beaucoup peur parce que. Donc moi je suis donc binational.
la mère de mes enfants, donc, est européenne, si on peut dire, parce que je ne sais plus comment se qualifier. En fait, on est tous français, mais on est obligé de se différencier en ce moment. Et donc, j'ai ma fille hier qui était sur Aix-en-Provence, avec un maillot de l'Algérie, alors que bon, elle milite pour rien du tout, quoi. Elle avait trouvé très jolie et rose, bon, bref. Et elle s'est faite attraper par une personne qui lui a dit qu'elle avait rien à faire ici, qu'elle devrait rentrer chez elle. Alors qu'elle est bien française, elle est à la faculté Aix-en-Provence. On a vécu tous ensemble toute notre jeunesse. Moi, j'ai été carrément élevé par une famille de confession juive, en étant musulman. On a toujours très très bien vécu ensemble. Et aujourd'hui, ben, par la montée, à mon sens, du RN et la dédiabolisation du RN, j'ai l'impression que ben voilà, en fait, on se replie.
Vous sentez que la parole se libère?
Oui, complètement. Ben, j'ai eu aussi une altercation. C'est même pas une altercation, mais je remis à sa place une personne qui en parlait ben, tranquillement au travail. Donc aujourd'hui, oui, ça se libère. Mais au-delà de ça, parce que comme je disais à d'autres personnes, chacun vote ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, ce que le RN représente, je crois que c'est pas conscientisé dans les têtes de chacun. Moi, j'ai vécu à Vitrolles pendant le temps où il y avait, ben, c'était dans les années 2000 justement. Oui. Il y avait la mairie qui avait été par le RN, il y avait des ratonnades, et c'est pas des bêtises que je dis, des ratonnades sur des jeunes mineurs. Et ce que je crains moi aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui ils sont armés, ces jeunes-là. Donc ça sera plus pareil. Donc quand on parle de guerre civile, alors ça fait peur. Mais moi qui travaille dans le milieu associatif, dans les quartiers, etc., je peux vous dire que c'est très prégnant et qu'aujourd'hui, si les directives du gouvernement Rassemblement National s'y passent, ce sera que faire du mal à des jeunes de banlieue, je peux vous dire que ça va mal se passer.
Mais si je peux me permettre, ce sont les jeunes de banlieue et les cités qui sont armés, hein, monsieur.
C'est ce que je dis.
Ce qui est marrant, c'est que il y a quelque chose dans ce que vous avez dit qui est intéressant, c'est que vous nous dites que la parole se libère, etc., qu'il y a une montée de la parole raciste ou haineuse avec la montée du RN, mais c'est ce que dit. Attendez, je finis mon argumentaire. Je finis juste mon argumentaire. Et vous dites également en 2000, donc à l'époque où le RN était beaucoup moins haut, vous rendez compte, il y avait des ratonnades, des trucs de fous, etc., et des actes purement racistes et violents. Donc finalement, c'est marrant parce que là aujourd'hui, on n'en voit plus vraiment des ratonnades. Alors après, on peut me dire le contraire, mais on en voit quand même moins qu'avant. Des petits incidents, sûrement.
Excuse-moi, c'est pas des petits incidents.
De quoi ?
Quand on appelle à casser du PD, c'est pas des petits incidents. C'est pas des petits.
Oui, non, c'est sûr.
Des manifestations qui ont eu à Lyon et dans d'autres villes de France où il y avait effectivement.
Il y a pas de ratonnades, il y a pas de morts, il y a pas de blessés. Donc non, mais je veux dire, il y a quand même eu un changement. Ce que je veux dire, c'est que vous dites que avec la montée du Rassemblement National, c'est de pire en pire, mais c'était quand même pire avant. Il me semble en 2000, à l'époque des ratonnades, justement, des skins et des mouvements d'extrême droite effectivement violents.
Je dis pas le contraire, mais comme l'a dit l'auditeur et tu l'as rappelé aussi, maintenant les jeunes de banlieue ou autres sont armés. Et quand Emmanuel Macron.
Ah non, il y a des jeunes.
Ils sont armés jusqu'aux dents. On parle des dealers de toute façon, on parle pas des jeunes dans les banlieues.
Les dealers, tu peux demander à n'importe quel policier, les dealers te diront. N'importe quel policier te diront, dans une cité, les dealers, c'est une dizaine de types. Sur la cité, hein.
Oui, non, mais c'est vrai, tu as raison, Rémi. Jeunes. Mais quand on parle de climat de guerre civile, alors loin de là, effectivement, Emmanuel Macron joue sur les peurs. Il a eu tort de le dire, mais c'est vrai que si demain il y a de la violence entre deux bandes, deux camps, si je puis dire,
il
y en a certains qui sont armés. Effectivement, c'est pas mal.
Ça. On l'a vu à Crépol, hein.
Vous savez,
à Crépol, ça a été très tendu, hein. Justement, c'est l'exemple typique avec le drame de ce qui s'est passé. On se souvient de ce jeune rugbyman qui a été tué lors d'une fête de village. À Crépol et à Romans-sur-Isère, dans les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi, ça a été extrêmement tendu. La police était présente, elle est intervenue, elle a calmé les esprits. Il y a eu des violences de part et d'autre, c'est-à-dire il y avait des bâtons, des barres de fer, etc. Il y a eu des groupuscules d'extrême droite qui ont essayé de venir à Romans-sur-Isère pour en découdre avec des jeunes. Je ne dis pas les jeunes, mais des jeunes des quartiers qui sont venus aussi qui sont défendus, en tout cas qui n'étaient pas prêts à se laisser faire. Ça a été quand même très tendu.
Vous savez, il y a un mot qui résume tout ça, c'est désinhibition. À partir du moment où il y a une montée de ces extrêmes, si vous voulez, il y a une sorte de désinhibition d'un côté comme de l'autre. Du côté de LFI, on a parlé de Gaza, donc ça a libéré un peu la parole antisémite. De l'autre côté, il y a effectivement des violences. Donc attention à cette désinhibition quand les extrêmes montent.
4 Français sur 10 se disent angoissés par la situation politique. Et vous, résultat de notre consultation?
Eh bien, Paul, nos auditeurs sont en raccord avec les Français, puisqu'ils répondent oui pour 41%.
4 sur 10.
Dans, 4 sur 10.
Allez. Dans un instant. Ah bah non, avant ça, il y a le jeu.
Et oui, vous reconnaissez ça, c'est le moment pour vous inscrire pour vivre l'expérience RMC Euro 2024 et gagner votre voyage pour assister au 8e de finale de l'équipe de France lundi 1er juillet, lundi prochain à 18h à Düsseldorf. Pour ça, vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16.
Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel. Déplacer un objet par la force de la pensée. Ce n'est pas de la magie, c'est de la technologie. Ouais, c'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h. Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC et RMC Story. Attention, un magicien vient de faire son entrée dans le studio.
RMC, Estelle Midi,
on n'arrête pas le progrès.
Ce magicien, il s'appelle Anthony Morel. Salut Anthony.
Morel le Magnifique.
Morel le Magnifique.
Ça va,
bon, Anthony, souvent avec toi, on parle du projet, on en a déjà parlé, hein, du projet Neuralink, cette entreprise créée par Elon Musk qui veut relier notre cerveau à des ordinateurs grâce à des puces électroniques. Et aujourd'hui, tu nous parles d'une start-up française qui fait au moins aussi bien. Elle a permis, accrochez-vous, à une personne handicapée de porter la flamme olympique par la seule force de sa pensée.
Exactement. Ouais, c'est ça. Elle s'appelle Nathalie. Alors, elle est lourdement handicapée. Elle est tétraplégique et elle a pu porter la flamme grâce à la puissance de son cerveau, de sa pensée, comme la force dans Star Wars, quoi, finalement. Alors, aidée quand même par un exosquelette, évidemment, un bras robotique auquel on a accroché la flamme, mais en se concentrant sur le geste, eh bien, elle a pu brandir la flamme olympique. Extraordinaire, évidemment. Et ça, c'est rendu possible par une technologie qui s'appelle Inclusive Brain. C'est des Marseillais, c'est le Neuralink marseillais. Alors, c'est encore mieux parce que Neuralink, vous savez, vous avez une puce dans le cerveau, hein, c'est le principe. Là, il n'y a même pas besoin de puce. En fait, c'est un petit casque qu'on porte sur la tête qui va analyser les signaux électriques qui sont envoyés par le cerveau et qui va détecter l'intention du geste. Donc, tu te concentres sur un geste et le geste va se réaliser. Là, ça permet d'activer un exosquelette, mais on peut faire plein d'autres choses. On peut activer n'importe quel appareil potentiellement. D'ailleurs, ils ont fait une autre expérience qui est assez dingue. Ils ont écrit et publié le premier tweet par la pensée. Donc, incroyable aussi. Donc, en gros, t'as la personne qui est devant l'écran de son ordinateur, devant le clavier. Elle ne touche absolument à rien, d'accord? Sur le clavier, enfin, tu as les touches qui s'affichent. Il se concentre sur les différentes touches. Alors, le A, le B, le C. Alors, c'est un petit peu fastidieux, évidemment. Faut se concentrer sur chaque lettre, si tu veux. Et une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas pouvoir, en fait, écrire un message. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué. Sauf que quand tu n'as plus que ce moyen-là pour communiquer, forcément, c'est quelque chose qui peut potentiellement te changer la vie.
Et voilà. Ces projets d'interface cerveau-machine, parce qu'on appelle ça comme ça, hein, se multiplient, notamment en France. Et les résultats sont de plus en plus spectaculaires.
Exactement, parce qu'on parle beaucoup de Neuralink, on parle beaucoup d'Elon Musk, normal, il y a beaucoup de hype autour de lui, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a beaucoup de projets de recherche. Alors, je pense notamment au CEA à Grenoble. Ils ont mis au point un truc incroyable, un projet qui s'appelle WeMagine. Et alors là, pour le coup, ça permet, alors c'est un implant cérébral, hein, qui permet à une personne paralysée de marcher à nouveau. Ouais, c'est extraordinaire. Donc là, tu as cet implant, donc, qui est placé au niveau du cerveau, qui va encore une fois analyser les signaux électriques. L'information est envoyée à un neurostimulateur qui est installé dans le dos du patient, au niveau de la moelle épinière, et ça contrôle en fait les mouvements des jambes. Alors les mouvements sont encore saccadés, oui. Enfin, voilà, c'est de la marche, on va dire, un peu très très lente, et on en est au tout début évidemment, mais tu imagines la promesse que ça peut représenter pour des patients.
Mais à combien de temps justement on estime la démocratisation de ce genre de...
Ça va prendre des années, ça va prendre des années, parce que là...
10 ans ou 50 ans?
Je pense que dans 10 ans, on aura déjà fait des pas de géant, réellement, littéralement pour le coup, parce que ça va très très vite, mais c'est des technologies qui coûtent encore très très cher pour l'instant. Donc le temps de les industrialiser, de démocratiser le tout, ça va prendre encore un peu.
Vous voyez
de temps.
Le temps qu'il faut pour essayer de remplacer le cerveau.
Ah bah oui, mais c'est la plus belle des machines.
Chef d'œuvre d'évolution.
On a un chef d'œuvre,
évidemment.
Merci beaucoup Anthony. Demain tu es là, on parle de quoi?
Oui, demain on parlera vélo, donc rien à voir.
Ah bah,
voilà, mais le vélo du futur.
Qui pédale tout seul?
Eh ben, toi, tu crois pas si bien sûr. C'est un vélo autonome, exactement, que je vais te présenter demain.
Le Tour de France en
coureur. Tu veux dire le Tour de France? Eh ben, si, ça servira. Je vais vous expliquer pourquoi.
Le Tour de France en coureur, c'est ça.
Le Tour de France avec que des vélos, mais personne sur la selle.
Formidable. Allez, on n'arrête pas le progrès. Donc, demain avec Anthony. Anthony, que vous pouvez évidemment retrouver, non pas par la pensée, mais par le cœur, sur notre podcast, évidemment, et notamment sur rmc.fr. C'est formidable. Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi. On va parler de cette proposition faite par le RN. Plus d'impôts, en tout cas pas d'impôts sur le revenu, pas d'impôts sur les sociétés pour les moins de 30 ans. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Vous nous appelez au 3216, c'est dans un instant dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.